RFI, 7h30 à Goma, 6h30 à Paris, N'Djamena.
RFI Matin.
Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
Le point sur la situation dans l'est de la RDC à la une de ce journal. Le M23 est dans une partie de la ville de Goma avec son allié rwandais. Mais des combats se sont poursuivis hier.
Oui, et ils ont repris ce matin, Andréane. Les habitants de Goma restent terrés chez eux, sans eau, sans électricité courante. Il y a des morts civiles, 17 au moins, dit un bilan hospitalier. 5 aussi du côté du territoire rwandais. Les structures sanitaires à Goma sont débordées, on va l'entendre. À suivre, une candidature qui prend forme, mais rien d'officiel. Les chefs traditionnels du Cameroun, en tout cas, eux en sont sûrs. Paul Biya est bien le bon candidat à la présidentielle dans 10 mois. Le journal des sports, dominé par le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de foot au Maroc hier. La RDC sera avec le Sénégal et le Bénin. Le Cameroun, le Gabon seront avec la Côte d'Ivoire. Le reste, dans 10 minutes, ou sur RFI.fr et bien sûr dans Radio Foot ce soir, 16h10 TU. Les combats ont repris donc ce matin au lever du soleil à Goma. Des combats notamment autour de l'aéroport de la capitale du Nord Kivu. Tout cela après une nuit plutôt calme, quelques tirs sporadiques entendus. Hier, lundi, des combats entre certains éléments de l'armée congolaise, les milices alliées Wazalendo d'un côté et le groupe armé M23 et les forces spéciales rwandaises de l'autre avaient également eu lieu. Il est impossible de dire précisément qui contrôle quoi. Le M23, en tout cas, est présent dans plusieurs endroits de Goma. On fait un nouveau point, nous sommes en train d'y travailler dans le journal de 8h, heure de Goma, soit dans une demi-heure. Côté humain, il y a 17 morts au moins chez les civils et 367 blessés. C'est un bilan très provisoire, partiel, qu'on a pu recouper auprès des hôpitaux de la capitale du Nord Kivu. Goma qui compte 1 million d'habitants, 700 000 déplacés, dit l'ONU. Ils sont tous, depuis dimanche soir, coincés, isolés dans les quartiers. Les centres de santé, notamment l'hôpital provincial du Nord Kivu, sont saturés. Guillaume Thibault.
Les balles sifflent, mais les soins sont effectués. Face à l'afflux de blessés, les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent faire le tri, donner la priorité à ceux qui peuvent être sauvés, comme l'explique cet urgentiste.
Malheureusement, nous avons pu enregistrer beaucoup de cas jusque là. On essaie un peu de faire ce qu'on peut, d'étrier donc ceux qui peuvent être encore sauvés. C'est comme ça.
Faute d'ambulance, les blessés, notamment de nombreux enfants, sont amenés à l'hôpital par leur famille.
Je tiens à signaler que toutes les blessures, en tout cas, sont des blessures par balle. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui a été touché, il y a une adolescente aussi. L'un de nous, d'un de nos camarades qui a été même touché, on vient à peine de le stabiliser. En tout cas, c'est catastrophique.
Ce médecin lance un appel à l'aide et à l'arrêt des combats pour faciliter l'accès aux soins.
Nous lançons juste un appel à la communauté internationale, au gouvernement congolais, afin d'intervenir. Tout ce que nous voulons, c'est revenir à la paix parce qu'on ne saurait pas soigner. Tout se blessé, tout le monde craint à sa vie.
Malgré le manque de personnel, de matériel, notamment de poches de sang pour les transfusions, l'équipe de l'hôpital provincial du Nord Kivu enchaîne les actes de chirurgie sans discontinuer depuis dimanche soir.
Et Guillaume Thibault, du côté de la frontière avec le Rwanda, les deux postes de petites et de grandes barrières n'ont laissé passer hier que des employés de l'ONU qui n'avaient pas pu prendre les avions de rapatriement. Le Rwanda parle de civils tués du côté rwandais de la frontière à Gisenyi, 5 morts et 35 blessés selon les autorités de Kigali qui continue de parler de menaces sérieuses et de la nécessité, selon elle, je cite, de prendre des mesures défensives. À Kinshasa, le président congolais lui a réuni plusieurs hauts responsables ce lundi. La réunion a fait état d'une résistance des troupes gouvernementales et de leurs alliés Wazalendo. Le président Tshisekedi doit s'exprimer, mais aucune date n'a été communiquée pour cela. Côté diplomatique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présidé en ce moment par la Côte d'Ivoire, se réunit à la mi-journée. En fin de journée, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir une nouvelle fois, 20h temps universel. La communauté d'Afrique de l'Est, elle, qui est présidée par le Kenya, compte toujours réunir de son côté les présidents Tshisekedi et Kagame. William Ruto, le chef de l'État kényan, l'a redit hier depuis Nairobi. Il évoque un sommet demain, mercredi, mais pas de confirmation pour le moment, ni de Kinshasa, ni de Kigali. Gaël Alex.
Pour William Ruto, il n'y a pas de place pour une solution militaire dans l'est de la RDC. Le président kényan demande donc des discussions avec le M23 et toutes les parties, sans plus de précision. Interrogé sur la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC et le risque que cela compromette les discussions, le président botte en touche.
La situation est déjà très compliquée, donc la présence de forces de sécurité d'où qu'elles viennent ne rend pas les choses plus complexes. Cette situation dure depuis 30 ou 40 ans. Il y a une mission de la paix de l'ONU sur place depuis 20 ans. Il y a eu des forces de la communauté est-africaine qui sont venues et reparties, des forces de la SADC qui sont venues et vont peut-être repartir, donc c'est une situation compliquée.
Le Kenya a déjà tenté de jouer les médiateurs dans le dossier de l'Est de la RDC, mais le processus de Nairobi, lancé en 2022 par le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, a fait chou blanc l'année dernière, Kinshasa suspectant le Kenya d'avoir pris le parti de Kigali. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est lui aussi exprimé, il condamne, je cite, l'assaut sur Goma du M23 soutenu par le Rwanda. Il affirme le respect des États-Unis pour la souveraineté de la RDC. Fin de citation. De tout cela, on parle avec notre invité, l'ancien ministre congolais des Affaires étrangères, le député Christophe Lutundula, dans 10 minutes.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
La capitale politique du Cameroun où les soutiens de Paul Biya donnent de la voix. Alors que plusieurs évêques catholiques ont plaidé ces derniers temps contre une nouvelle candidature du chef de l'État, Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Il aura 92 ans dans deux semaines. On l'a entendu sur RFI, le RDPC, le parti présidentiel, a critiqué les religieux qui se sont positionnés. Et hier, c'était au tour d'une autre autorité morale de prendre position, le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, qui réunissait son conclave, plusieurs centaines de chefs issus des quatre zones géographiques et culturelles du pays. Polycarpe Samba y était.
Le nouveau président de ce conseil des chefs traditionnels élu pendant ses travaux est Sa Majesté Guy Tsalanzomo, chef de premier degré et dont l'autorité s'étale sur les peuples Etone et Mangissa dans la région du centre. Pour ce dernier et au nom de ce conseil, le soutien au président Paul Biya est sans équivoque.
Si vous avez suivi la lecture de cette déclaration, les chefs rappellent que depuis 1983, quand le président Biya accède à la magistrature suprême, les chefs des 10 régions du Cameroun lui ont donné leur onction et leur bénédiction. Le président Biya a été fait chef des chefs et les chefs traditionnels lui disent « Nous vous avons donné notre onction, on la réitère aujourd'hui ».
Pour tout ce qui évoque la situation socio-économique du pays jugée préoccupante ou encore l'âge avancé du président pour tenter de disqualifier sa candidature, cet autre participant à ce conclave répond.
La situation socio-économique du pays, elle n'est pas unique au Cameroun. Le monde est en perpétuelle difficulté. Regardez ailleurs, c'est pas le Cameroun qui est le seul pays qui est en difficulté. On pourrait même dire que le Cameroun se porte plutôt bien par rapport à ce qu'on voit ailleurs. L'âge du président, c'est pas un critère qui limite l'accession à la candidature, à la présidence de la République. Les critères sont les critères définis par la Constitution. Et il y a un critère de limite d'âge par le bas, il n'y a pas un critère de limite d'âge par le haut.
Avec cette sortie des chefs traditionnels, la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, quoique toujours pas acquise officiellement, prend néanmoins progressivement forme. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Une présidentielle cette année au Gabon pour sortir de la transition, ce sera le 12 avril. Avril au lieu du mois d'août. Que vous inspire cette accélération du calendrier? On attend vos réactions dans Appel sur l'actualité tout à l'heure, 8h10, temps universel. La polémique aux Comores après des propos du président Azali Assoumani, c'était la semaine dernière. Le chef de l'État était en tournée dans les trois îles de la République, tournée de remerciements après les législatives qui, dès le premier tour, ont assuré à son parti une écrasante majorité. Azali Assoumani a parlé succession, il a évoqué la famille, un fils, Tolé. Mais mauvaise interprétation, dit la présidence, qui donnait une conférence de presse en forme d'explication de texte hier à Moroni. Le président voulait parler d'un successeur enfant du parti pour briguer la magistrature suprême en 2029. Le premier ministre français, lui, est favorable à une restriction du droit du sol à Mayotte. Gage donné à l'extrême droite et la droite française par François Bayrou. Hier, décryptage du service politique de RFI dans une demi-heure. Elles peuvent peser de 15 à 20 kilos et vivre jusqu'à 100 ans. Et certains, apparemment, aiment les balader dans leur appartement. Les tortues radiata, endémiques de Madagascar, sont prisées en Asie du Sud-Est. Un réseau de trafic vient d'être démantelé. Arrestations en série. En Tanzanie, à Madagascar, ces dernières semaines, 2700 animaux ont été récupérés. Sarah Teto.
C'est un coup de filet sans précédent pour le pays, a annoncé hier le ministre de l'Environnement malgache, Max Fontaine.
C'est la première fois qu'on arrive en très peu de temps à attraper plusieurs maillons de la chaîne du réseau. Il y a par exemple des collecteurs, des transporteurs, le commandant d'une vedette, jusqu'aux exportateurs qui avaient la marchandise prête à être exportée. Et on a réussi à remonter tout le réseau.
Un réseau bien organisé qui dispose, selon les premiers éléments de l'enquête, de gros moyens financiers, humains et logistiques. Des véhicules neufs, un bateau rapide et des armes ont été saisies. Le ministre salue la collaboration entre les différents ministères, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, la coopération avec ses partenaires internationaux qui a permis les arrestations à l'étranger.
Au mois de mai 2024, on a créé une task force internationale, une plateforme où donc on échange des informations très rapidement et en fait avec des outils technologiques plutôt avancés, on a pu faire certains liens, des preuves bancaires, etc. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à attraper le réseau jusqu'en Tanzanie. Ce sont des réseaux qui vont bien plus loin que le trafic de tortue. C'est des réseaux de blanchiment d'argent. Ce sont aussi des réseaux qui savent faire d'autres types de trafic.
Les 19 personnes arrêtées sur l'île ont toutes été incarcérées en attendant leur procès. Elles sont poursuivies pour trafic d'espèces sauvages et certaines pour blanchiment de capitaux. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Radio France Internationale, 5h40 à Ouagadougou, où les partisans de la transition menée par les putschistes entendent donner de la voix. Ils comptent bien fêter les 1 an de l'annonce fracassante du départ de la CDAO. C'était le 28 janvier 2024. Des manifestations sont donc annoncées aujourd'hui dans plusieurs villes du Burkina Faso. Des célébrations qui seront d'ailleurs simultanées dans les deux autres pays membres qui partent aussi de la CDAO, le Mali et le Niger. Frédéric Gara.
À Ouagadougou, cette cérémonie officielle sera marquée par une montée des couleurs au ministère des Affaires étrangères en présence des membres du gouvernement. Pour l'occasion, de nombreuses associations ont appelé à un grand rassemblement, place de la Nation, et dans d'autres villes du pays afin de célébrer ce qui est qualifié de victoire d'étape dans le processus d'autodétermination. C'est ce que martèlent les responsables de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Les organisateurs de la manifestation ont appelé à une journée ville morte pour garantir une forte mobilisation. Dans la région du Centre-Est, le gouverneur a demandé la suspension des cours dans les écoles afin que les élèves se mobilisent pour participer massivement au soutien du camarade président capitaine Ibrahim Traoré et s'opposer aux manœuvres de déstabilisation de l'AES. Fin de citation. Ce mardi, des manifestations similaires devraient se tenir simultanément au Mali et au Niger, les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel.
Un mot de cette grève qui semble particulièrement suivie au Mali, grève d'enseignants du supérieur pour demander de toucher enfin une prime promise depuis 2017. Le point sur l'appli RFI. On va terminer entre Maroc et Espagne, pile entre les deux, en Méditerranée, ou plutôt sous la Méditerranée. On parle de ce vieux projet qui ressort des cartons, un tunnel sous-marin. Une entreprise allemande vient d'être retenue pour étudier la faisabilité. L'envie est là, mais les défis technologiques sont immenses, François Imfer Kataji.
Ce tunnel, dont la conception est partagée entre le Maroc et l'Espagne, permettrait à moyen terme le transit de plus de 13 millions de tonnes de marchandises et 12 millions de passagers par an. Reliant Tanger au Maroc, à Tarifa en Espagne, l'infrastructure compterait près de 28 km de tunnels sous-marins à plus de 200 mètres sous le niveau de la mer et 11 km de tunnels terrestres. Un tunnel moins long mais construit beaucoup plus en profondeur que le tunnel sous la Manche. Sa conception pose d'importants défis techniques. Le détroit de Gibraltar, situé à la limite des plaques tectoniques européennes et africaines, est une zone géologique complexe avec des portions argileuses instables et de violents courants marins. Personne à ce stade ne s'aventure à chiffrer le coût d'un tel projet. Le méga-projet permettrait de renforcer les liens économiques entre le Maroc et l'Union européenne et de faciliter le transport.